Tu viens d'où ?
Haïti.
Haïti ? Près de Tortuga ?
Tortuga ?
Oui, Tortuga, l'île des pirates.
Des pirates ? Ah non. Haïti, l'ancienne colonie française, première république noire indépendante.
Voilà, oui, pardon. Excuse-moi. Non, en fait, c'est juste que j'adore les pirates. Ouais. Mais waouh, ok. Tu viens de loin pour passer le concours ?
Ben non, je suis déjà en France. J'essaye de me réorienter.
Ah.
Deux jeunes hommes se rencontrent le jour du concours d'entrée à Sciences Po. L'un est français de milieu modeste, l'autre haïtien en France pour faire ses études. Rencontres, rêves croisés, préjugés et fascinations respectives, perceptions divergentes sur l'histoire, la mémoire coloniale et le présent de ce pays, berceau de la liberté aujourd'hui en crise. Cap au monde est un spectacle mis en scène par Olivier Coulon-Jablonka. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Le temps de boire un petit peu d'eau sur un texte d'Alice Carré qui n'a pu se rendre disponible et de Carlo Andy Charles qui est bien là. Bonjour.
Bonjour.
Auteur de théâtre, vous êtes aussi chercheur en immigration internationale et en sociologie, enseignant à l'Université de Toronto au Canada, coordinateur de nombreux projets interculturels. À se demander comment vous trouvez le temps d'écrire du théâtre, mais peut-être que c'est un tout. Toutes ces activités ont pour objectif de faire du théâtre ?
Oh, bah, c'est une belle question, c'est une bonne façon de voir ça, mais je pense que pour moi, la recherche et le théâtre ne sont pas forcément différents, parce que la recherche permet de fournir le contexte socio-historique, politique et économique pour comprendre ce que j'écris dans le théâtre, qui sont les émotions, les sentiments, l'intime. Donc pour moi, l'un complète l'autre.
Mais ce théâtre, en tout cas cette pièce-là, raconte aussi quelque chose de l'interculturalité et de la migration, puisqu'il s'agit de regards croisés, finalement, autour de 200 ans d'histoire d'Haïti.
Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Et c'était très important de faire en sorte que ce soit une histoire contemporaine qui se base sur aujourd'hui, mais en lien avec ce qui s'est passé dans le passé. Le plus souvent, quand on parle d'Haïti, pour les Noirs particulièrement, on voit Haïti comme la première république noire à être indépendante dans le monde, et on en est fiers. Et
puis Toussaint l'ouverture.
Toussaint l'ouverture, voilà. Et puis pour les Haïtiens, c'est plutôt Jean-Jacques Dessalines. Et puis pour les gens qui ne sont pas Haïtiens, qui connaissent pas Haïti, c'est plutôt le tremblement de terre de 2010, et puis tous les autres événements qui se sont passés après. Donc on a très peu de temps de parler de l'intime, de parler des migrants haïtiens qui sont partout dans le monde. Et c'est ça l'objectif de la pièce aussi.
Et puis il y a dans la pièce aussi cette histoire de dette qui n'est pas forcément toujours très très connue, que Haïti a dû payer aux colons français et qui pèse encore aujourd'hui très très lourd dans l'histoire économique du pays.
En effet, 150 millions de francs. Or, ce qui représente une somme colossale aujourd'hui. Et j'aime bien le dire, je me dis, si cette somme avait été utilisée en Haïti, peut-être que ça aurait contribué au développement d'infrastructures de base, quoi. Système de santé, système d'éducation, les routes, tout ce dont on a encore besoin en Haïti qui n'existe pas. Et pourtant, en France, on n'en parle pas. C'est un peu l'amnésie coloniale par rapport à cette histoire française.
150 millions de francs or qui ont été réclamés donc au début du 19e siècle, ouais. Et que Haïti a mis plus d'un siècle à rembourser.
Ouais, c'est ça. Ça a été réclamé début du 20e siècle, et ça a commencé à être payé de 1825 à 1952. Donc vous imaginez, seulement quelques années après l'indépendance d'Haïti, qui a été proclamée en 1804, donc en 1825, pratiquement 21 ans après, on a commencé à payer à la France cette dette. Une jeune nation avec très peu de ressources, avec des esclaves qui n'ont pas eu le temps de se préparer, qui n'ont pas eu le temps ou l'éducation que les colons français avaient pour pouvoir développer Haïti, et bien tout de suite, ils se sont mis à payer une dette d'indépendance aussi forte et pendant plus d'un siècle.
Alors ce texte assez didactique est servi par une mise en scène très dépouillée, la vôtre, Olivier Coulon-Jablonka. Ce texte, vous l'avez en partie commandé ?
Oui, je l'ai complètement commandé, c'est-à-dire que le projet s'est beaucoup modifié pour des raisons aussi de production, de contexte. Et Carlo, il est rentré dans l'écriture, ça nous semblait important qu'il l'écrive avec Alice. Mais au départ, nous, on est rentré dans cette histoire à travers une adaptation d'Einar Müller, qui était La Mission, à partir de laquelle on a commencé à rentrer dans cette histoire. Et on a lu voilà, les séances de l'Assemblée nationale entre 89 et 94. Moi, j'ai proposé à Alice d'écrire ce texte. On voulait partir à Haïti. Il y a eu beaucoup de soucis pour nous en termes de production. Et à l'époque, quand je lui avais proposé, elle connaissait déjà Carlo. Et elle allait le voir à Haïti. Alors, elle m'a dit, c'est super que tu me proposes ce projet parce que je pars justement... dans quelques semaines, voilà.
Et c'est devenu autre chose. Oui, un texte qui raconte ces deux points de vue, ces deux visions, devait être écrit par deux auteurs qui ont eux-mêmes des histoires différentes.
Oui, c'est-à-dire que nous, on voulait au départ faire une traversée très historique aussi de cette histoire passée, qui est très complexe, sur laquelle on ne pourra pas revenir forcément sur tous les détails et tout ce qui se passe au moment aussi de cette révolution à Saint-Domingue. Et là, l'idée, c'était plutôt d'attaquer tout ça par un point très contemporain, justement pour aborder aussi la question postcoloniale et les débats à travers deux jeunes hommes qui, en fait, incarnent aussi des idées, mais qui ne sont pas binaires parce qu'ils essayent de dialoguer pendant toute la pièce. Et donc, voilà, c'est cette amitié-là aussi et cette relation, ces écarts qui font que quelque chose peut se dire de l'histoire entre la France et Haïti.
Le théâtre doit informer le présent. Notre présent.
Oui, alors, moi, je suis très content de cette pièce dans le sens où, pour une fois, je repasse par la fiction, mais le processus est documentaire. Et Carlo pourra peut-être aussi raconter, il y a eu beaucoup de lettres entre Alice et Carlo aussi, et c'est à partir de ce qu'ils sont, de ce qu'ils avaient vécu ensemble, des désaccords aussi qu'ils avaient pu avoir, qu'ils ont construit ces personnages. Donc moi, je suis toujours pour le réel. Mais pour une fois, c'est vrai que ça passe. Et aussi, je pense que ça permet de faciliter le didactisme. C'est-à-dire qu'on réaborde des choses, mais quand même à travers une fiction, deux personnages, voilà.
Au présent, sur RFI, aujourd'hui, il y a donc ce spectacle Cap au Monde et une avant-première, le premier titre disponible du prochain album de Maud Lubeck, Au voleur.
C'est la teenager, joue rose et tache de rousseur de l'album aux photos jaunies. Où sont passés mon petit baigneur, mes casques et mon baladeur, le monstre caché sous mon lit. Le temps s'enfuit avec ma vie. Au voleur.
Sur RFI sans lien aucun avec ce spectacle Cap au Monde, même si ce slogan, ce titre Au voleur peut résonner un peu. Cap au Monde, spectacle franco-haïtien, écrit par Carlo Andichard et mis en scène par Olivier Coulon-Jablonka, aujourd'hui nos invités. Le titre est en créole, mais la pièce ne l'est pas. Pourquoi, Carlo Andichard?
Le titre est en créole parce qu'on voulait quelque chose qui combine le nom de la ville de l'un des deux personnages, Candy, donc c'est la ville du Cap haïtien. Et donc du coup, on voulait parler de migration, donc on part du Cap pour aller au monde. Pour aller au reste du monde. Donc du coup c'est ça un peu parce que du coup ça permet de mettre l'emphase sur le parcours migratoire de tellement d'Haïtiens qui partent de cette ville pour aller partout dans le monde, Amérique du Nord, Amérique du Sud, en Europe et tout.
Mais c'est transparent parce que Cap au monde, ça s'écrit avec un K et il n'y a pas de E à monde, mais on comprend très bien en français de France, en français
exactement.
Parisien que c'est Cap au monde.
Exactement, c'est ça. Et puis bon, la pièce quand même a quelques petits passages en créole.
Ah bon ?
Donc oui, il y a quelques petits passages
très
en créole.
Peu.
Oui, très peu. C'est
juste les moments où j'ai dû m'endormir parce que je ne les ai pas entendus.
En fait, on voulait que les gens comprennent en français. Parce que si on faisait ça complètement en créole, les Français qui ne parlent pas le créole, ils auraient du mal à comprendre l'histoire. Donc.
Mais je me suis dit que ce personnage Candy, qui est donc l'étudiant haïtien, ne parlait pas créole justement parce qu'il avait un désir d'intégration très fort, un désir de réussite, comme si d'ailleurs l'immigration était le nouveau rêve haïtien. Et il dit d'ailleurs que sa mère lui dit « Surtout, tu ne rentres pas
mm-hmm. !» Bah, c'est une excellente vue justement de ce personnage parce qu'en Haïti, le statut du français est extrêmement important. C'est la langue française en tant que telle, c'est un symbole de distinction qui permet aux gens de catégorie de classe supérieure de se séparer des gens de classe plutôt populaire ou qui permet aussi aux gens des classes plutôt populaires d'avoir ces envies d'ascension. Donc, et ils expriment ces envies à travers le français. Donc, le français est un élément très, très, très important pour les Haïtiens et parfois qui ont même des difficultés à vraiment parler en français. Mais le fait de montrer qu'on peut au moins dire une phrase en français, ça rapproche un peu les deux mondes, quoi.
Donc, mais cette migration a toujours marqué l'histoire d'Haïti, ce départ des Haïtiens vers l'étranger. Est-ce que cela n'a pas empiré ? Parce que le texte a été écrit quand il y a quelques années, il n'est pas immédiatement contemporain.
Oh, il est très contemporain. Il est immédiatement contemporain. On a commencé à écrire le texte fin 2020, novembre 2020, et puis on a fini les dernières versions en 2021, novembre 2021, décembre. Donc du coup, c'est vraiment très contemporain. Est-ce que la migration a toujours été l'histoire d'Haïti ? Pas vraiment, parce que du coup, les premières grandes vagues migratoires qu'il y a eu en Haïti, ça a commencé dans les années 50 et c'était marqué particulièrement par la dictature du valériste de Papadoc et puis après de Babydoc. Donc, et les Haïtiens sont partis un peu partout, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, sont venus en France, sont partis au Canada, à Montréal, et sont partis, il y a eu le phénomène des boat people dans les années 90. Donc, mais pas toujours une histoire d'Haïti, quoi. Ça s'est empiré, bien sûr, pendant
donc,
ces dernières années.
Quand dans le texte vous dites « il n'y a plus de société en Haïti », c'est un constat sur le temps présent.
Mm-hmm. Alors, c'est un constat sur le temps présent, définitivement, mais c'est aussi un constat pour moi en tant qu'auteur et aussi chercheur. Je suis retourné en Haïti pour faire la recherche, pour faire un terrain. Et en étant en Haïti, je me rends compte que toutes les normes sociales auxquelles je suis habitué, j'ai vécu en France pendant 3 ans, j'habite au Canada depuis 6 ans, j'ai vécu en Amérique du Sud, j'ai vécu dans d'autres pays, j'ai travaillé en Afrique. Donc, tout ce à quoi je suis habitué, ben, je n'ai pas retrouvé ça en Haïti. Et donc, du coup, mon constat, c'était il n'y a plus de société ici, même ce à quoi j'étais habitué quand j'habitais en Haïti. Donc, j'ai tenu à ce que cette phrase soit dans la pièce pour parler de ce que je vois en Haïti, dans l'Haïti contemporaine.
C'est ce que dit en tout cas Candy aussi, à travers vous, ou vous à travers Candy, le personnage de Candy, ce jeune étudiant haïtien, qui dialogue donc avec Mathieu. Et là, je vais me tourner vers vous, Olivier Coulon-Jablonka, pour nous raconter qui est ce Mathieu qui rêve de sauver le pays d'Haïti, le pays qu'il ne connaît pas.
Oui, alors il faudrait plutôt demander à Alice, parce qu'en fait, comme je disais, Carlo a écrit évidemment la ligne de Candy et Alice a écrit celle de Mathieu. Alors évidemment, après, il y a des porosités, ils se sont repassés les parties, mais la pièce est structurée, mais vous l'avez vu, en deux grands blocs qui sont deux grands voyages, en fait. L'un, donc, de Mathieu, qui décide d'aller faire de l'humanitaire en espérant réparer quelque chose de cette histoire qu'il a découvert à travers son ami, et celle de Candy, qui pense que la solution, c'est peut-être que les Haïtiens reviennent sur place. Et donc, ce sont ces deux rêves qui viennent se fracasser l'un sur l'autre.
Deux rêves qui sont deux échecs.
Deux échecs. Donc la pièce est assez sombre d'un point de vue sociologique. En tout cas, elle travaille la question sociologique et des impossibilités. Après, il y a cette histoire d'amitié, comme je le disais, qui fait que, malgré tout, il y a quelque chose qui n'est pas complètement dans un constat. Hein. Il y a une phrase où il dit « Mais peut-être un jour, on finira par s'associer. » L'autre répond « Tu crois vraiment que je vais m'associer avec un Français ?» Mais non, je plaisante, t'es pas si mal. Toi, au moins, tu confonds pas Haïti et Tahiti. Voilà.
Mais quand même, c'est un échec parce que Candy veut créer une entreprise en Haïti pour relever le pays, enfin pour aider à se relever, et il fait un constat d'échec. Il rentre en France pour partir ensuite à Miami. Quant à Mathieu, il s'engage dans une ONG. Il va à Cap-Haïtien, au bord d'une piscine, mais aussi dans les champs pour essayer d'aider à l'agriculture dans ce pays. Et il déchante, il reconnaît que c'est un échec. Il se pose donc la question de l'humanitaire.
Je pense que pour les auteurs, il y avait aussi une question comme un roman d'apprentissage, si vous voulez. Donc il y a toujours ce rapport-là. Mais il y a du temps qui passe aussi, on les voit évoluer. Et comprendre, et il y a une série d'ascensions comme ça, en tout cas pour le personnage de Mathieu, de révélations. Donc il y a une série de révélations comme ça, mais qui ne se terminent jamais, puisqu'il croit avoir compris, et puis finalement il se rend compte que là encore il s'est trompé.
Pièce assez sombre, dites-vous, et c'est assez juste, enfin en tout cas c'est comme cela que je l'ai perçu, et notamment sur cette question de l'humanitaire, comment faire Carlo, quand on est en France pour Haïti? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que l'humanitaire est vraiment un trompe-l'œil et une arme à double tranchant? Ça, on le sait, mais est-ce que c'est vraiment un trompe-l'œil?
Eh bien, il y a une réplique de la pièce où Candy, il dit à un moment, l'humanitaire, c'est quand même bien sur le court terme parce que cela aide, mais sur le long terme, ce n'est qu'un business. Et je pense que c'est une réplique qui est très importante pour comprendre un point de vue nuancé sur l'humanitaire. De toute façon, en Haïti, pour y avoir vécu, et j'étais là il y a juste quelques mois, c'est très important d'avoir cette aide immédiate. Il y a des gens, des millions de personnes qui n'arrivent pas à trouver de quoi manger. Et surtout, après les catastrophes naturelles, les tremblements de terre que l'on a, les inondations, les tempêtes, enfin, voilà. Et c'est très important pour ces gens qui n'ont rien d'avoir accès à cette aide immédiate. Alors, le problème se pose quand cette aide immédiate devient une aide permanente. Et donc, du coup, on enlève aux gens leur capacité d'autonomie, de pouvoir se construire, de prendre des décisions pour eux-mêmes et de décider de ce qu'ils veulent faire de leur propre contexte. Je pense que c'est important et je pense qu'il y a quand même une différence entre l'aide humanitaire et le développement international, ou plutôt l'accompagnement au développement international, ou plutôt, je pense que l'idée à la fin du spectacle, c'est de comprendre, partir d'un pays occidental, ça peut être la France, les États-Unis, le Canada, et dire, allez, on va changer à un autre pays, c'est vachement plus compliqué que ça. En plus, encore plus quand on est jeune, au début de vingtaine, on est dépourvu de si. Donc, on ne comprend pas la réalité. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est de comprendre comment on peut accompagner les gens dans leur propre processus de développement, en leur fournissant les moyens dont ils ont besoin.
L'histoire et l'économie aussi, au cœur de ce spectacle Cap au Monde, dans ces dialogues entre Candy et Mathieu, tout les oppose, ou en tout cas beaucoup de choses les opposent. Pourtant, il y a une belle amitié qui les lie. Amitié née donc lors du concours d'entrée à Sciences Po. Ils avaient pour dissertation les trois lettres de la devise républicaine française: liberté, égalité, fraternité.
Qu'est-ce que tu as pensé du sujet, toi? Moi, je ne savais pas quel angle prendre. Soit on leur servait la soupe républicaine et ça n'avait pas beaucoup d'intérêt, soit on leur disait vraiment ce qu'on pense sur la manière dont on applique ces valeurs aujourd'hui, et là... Enfin bon, bref. Je pense pas que je l'aurais.
Mais il n'y a pas qu'aujourd'hui que ces mots n'ont aucun sens.
Pourquoi tu dis ça?
Quand tu regardes la révolution depuis Haïti, par exemple, tu déchantes un peu sur ces concepts.
Qu'est-ce que t'as écrit, alors?
Que les esclaves croyaient beaucoup plus aux valeurs liberté, égalité, fraternité que les députés qui siégeaient à l'Assemblée au moment de la révolution.
Ah oui, mais non, attends, tu peux pas écrire ça. Hein. Rappelle-toi cette phrase de Danton, le jour de l'abolition de l'esclavage. Jusqu'ici, nous n'avons décrété la liberté qu'en égoïste et pour nous seuls, mais aujourd'hui, nous proclamons à la face de l'univers, et les générations futures trouveront leur gloire dans ce décret, nous proclamons la liberté universelle.
Oui.
C'est magnifique.
Tu sais qu'au moment où Danton fait son discours, l'esclavage avait déjà été aboli en Haïti depuis des mois? Si les esclaves n'avaient pas pris eux-mêmes leur liberté, jamais aucun député n'aurait bougé le petit doigt pour eux.
Robert Augean et Charles Zébaco dans Cap au Monde. Cette devise républicaine, finalement, elle ne cesse d'être interrogée avec elle, l'idée de l'universalisme. Que diriez-vous de cette méconnaissance des Français de l'histoire haïtienne? Est-ce que cela veut dire que la décolonisation du savoir n'a pas eu lieu? Olivier Coulon-Jablonka.
Bah, écoutez, oui, je pense que c'est très différent au Canada ou Vicarlo, par exemple. C'est la révolution française, elle vient en tout cas masquer une autre révolution qui est la révolution atlantique. Et donc, pour nous, c'était très important de revenir sur cette histoire, de redire aussi que, en effet, les droits de l'homme, ça s'applique en métropole, en 89, mais il y a un état d'exception pour Haïti et qu'on invente une autre constitution. Et cet état d'exception, voilà, c'est quelque chose qu'on peut retrouver ici à d'autres endroits. Moi, j'avais travaillé avec des sans-papiers, mais c'est la vie nue. Donc cette question de l'exception et de qui a des droits, qui n'en a pas, elle est très importante.
J'évoquais tout à l'heure la simplicité du dispositif de ce spectacle, deux acteurs et juste quelques accessoires. Finalement, ça permettrait de jouer partout. Est-ce que c'est l'objectif, justement, pour s'adresser peut-être à des jeunes gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre et de franchir
c'est
la lourde porte?
C'est complètement l'objectif, Pascal. C'est nous, on a pensé cette forme à la fois pour des plateaux de théâtre, mais un dispositif qui est très modulable, vous l'avez vu, puisque là, il y a un cyclo, mais on peut tout à fait jouer cette pièce dans les lycées. Et c'est ce qu'on va faire au théâtre Jean Villard, par exemple, en février. Et c'est quelque chose qu'on aime bien aussi, se déplacer dans d'autres lieux que des lieux de théâtre.
Parce qu'il faut porter cette histoire, il faut porter cette parole. Est-ce que les jeunes gens aujourd'hui qui ont 17 ou 18 ans, qui vivent en France, le savent? Peu.
Mais oui, moi je pense que le théâtre, il doit raconter des histoires, mais des histoires, pas que des petites histoires, des grandes histoires aussi. Et donc il faut pouvoir recréer cette question de l'Assemblée qui, là, quand même, à travers ces deux personnages, à chaque fois, nous met face à des dilemmes, à des choses où on peut se reconnaître aussi. On se dit que ça peut être l'histoire des deux comédiens. C'est aussi l'histoire de Carlo et Alice, mais c'est aussi notre histoire. Et donc, c'est toujours ce jeu de l'assemblée des regards où on peut se questionner autrement.
Carlo Andy Charles, vous qui enseignez au Canada, qui travaillez sur des projets avec des étudiants, on en est où dans ce débat sur sur ces questions d'universalisme et de décolonisation?
Vous savez, quand je suis parti de la France, j'ai fait mes études à Lyon et de licence, et puis après je suis parti au Canada pour faire mes masters. Et en arrivant au Canada, j'étais tout de suite très surpris de voir à quel point les gens, ils étaient beaucoup plus engagés qu'en France sur les questions de décolonisation, sur les questions d'universalisme, en fait. Déjà, moi, je suis arrivé en premier semestre de master et tout de suite, c'était un cours sur la migration et la décolonisation. Migration, et puis on remet en question ces grands thèmes qui sont censés être conventionnels. Hein. On les remet en question, mais avec force. Et en plus, il y a l'action qui vient derrière, l'action institutionnelle. C'est-à-dire, c'est pas juste quelque chose que l'on fait de façon intellectuelle, de façon philosophique, mais il y a des mesures et des politiques publiques qui accompagnent justement le débat intellectuel, et ce qui est très, très, très intéressant. Alors, après ce qui s'est passé aux États-Unis en 2020, avec la mort de George Floyd, donc ça s'est accéléré, ça s'est intensifié de façon extraordinaire. Donc, on a encore vachement plus de débats. Et les étudiants, moi, ça me fait plaisir de voir mes étudiants de licence qui ont 18 ans, qui ont 17 ans, 19 ans, et la façon dont ils s'engagent dans ce genre de débat et dans leur vie. Moi, ça m'émeut à chaque fois. Donc,
alors que c'est très, très problématique encore aujourd'hui. L'actualité déborde d'exemples où l'enseignement de la décolonisation et de cette période-là est particulièrement houleuse
en France.
C'est hyper
compliqué. Et surtout au Canada, récemment, il y a eu la découverte des Autochtones qui sont morts. Donc, c'est compliqué, quoi.
Être haïtien et ne jamais connaître le repos, dit un des personnages dans ce spectacle. Alors, Lucie Bouteloup n'est pas haïtienne, mais sa langue, oui, elle ne connaît jamais le repos. Elle colle, c'est la puce.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie Bouteloup.
Bonjour Pascal.
Aujourd'hui, on joue comme souvent avec vous.
Oh, on joue quoi ? On joue les Cassandres.
Mais c'est pas joyeux, joyeux.
C'est pas joyeux, joyeux, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce qu'aujourd'hui, donc, on va jouer les Cassandres avec Sylvie Brunet. Mais savez-vous, au fait, qui est cette Cassandre ? Et surtout, pourquoi on associe son nom à une tragédie ? L'occasion peut-être de revoir votre mythologie. Et manifestement, mes deux ados ont besoin de reprendre quelques cours.
Bah pour moi, jouer les Cassandres, c'est comme jouer les casseroles. Et quand on dit tu chantes comme une casserole, ça veut dire que tu chantes mal. Et ça veut dire tu chantes faux, tu mens, quoi.
Tu joues les Cassandres, c'est peut-être comme tu joues les divas. Arrête de faire ton cirque, tu joues trop les Cassandres. C'est peut-être ça.
Je connais une fille qui s'appelle Cassandre.
Cassandre, c'est pas... Si, je sais ce que c'est. C'est une épice. On en met... c'est trop bon, la Cassandre.
C'est pas la cannelle, plutôt?
Si, c'est cannelle.
Moi, Cassandre, ça me fait penser à casse, genre tu me casses les pieds, tu me saoules, Cassandre, ça veut dire arrête de te jouer la Cassandre, arrête de m'embêter, arrête de saouler.
Alors Sylvie Brunet, est-ce que Cassandre, c'est celle qui casse les pieds ?
Non, pas vraiment, elle casse pas les pieds, c'est pas question de casserole ni de coriandre, c'est tout à fait autre chose. Et ça fait référence effectivement à la mythologie et toutes ces expressions, puisqu'il y en avait beaucoup en français avec des prénoms issus de la mythologie. Elles appartiennent à une époque où tout le monde connaissait sa mythologie sur le bout des doigts. Au 19e siècle, tout le monde savait qui était Cassandre. C'est vrai que maintenant, c'est devenu beaucoup plus difficile de situer les personnages mythologiques. Donc la Cassandre en question, c'est la fille du roi de Troie, de Priam et Hécube. Et elle a hérité d'un don extraordinaire, elle voit l'avenir. Et en même temps, comme elle a refusé les avances d'Apollon, elle a été punie par le dieu qui lui a dit « Effectivement, tu annonceras ce qui se passe dans le futur, mais tu ne seras jamais crue ». Et donc, elle annonce ce qui va se passer pour la guerre de Troie. Et bien entendu, personne dans le camp troyen ne la croit.
Donc elle assiste, totalement impuissante, en fait, à la chute de Troie.
Absolument.
Alors cette expression, elle est utilisée depuis quand ?
Depuis le 19e siècle, de façon très courante. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a évolué, cette expression. Maintenant, nous, on ne la comprend plus tout à fait, parce qu'autrefois, jouer les Cassandres, c'était à la fois prédire l'avenir et ne pas être cru. Et maintenant, au sens où nous l'employons, c'est prédire des choses horribles qui vont se passer.
Oui, prédire les catastrophes, quoi. On est en quelque sorte l'oiseau de mauvais augure.
L'oiseau de mauvais augure, absolument. On l'a beaucoup entendu avec tout ce qui se passe sur l'environnement, le réchauffement climatique. Quelqu'un qui prend la parole pour dire « voilà ce qui va se passer dans les années qui viennent avec le réchauffement climatique », on lui dit « vous jouez les Cassandres ».
Alors Sylvie Brunet, des expressions avec des prénoms issus de la mythologie, dans votre ouvrage, il y en a beaucoup. Je pense notamment à « faire sa Pénélope », en référence à Pénélope, la femme d'Ulysse qui l'a attendue pendant de longues années en tissant sa tapisserie.
Voilà, elle symbolise la patience. On pouvait dire par exemple des femmes, des marins, que c'était des Pénélopes. Elles attendaient le retour de leur homme.
Il y a le talon d'Achille de quelqu'un ?
Absolument, ça veut dire le côté fragile de cette personne, par où on pourra l'atteindre.
Ou le travail de Titan ou d'Hercule pour parler d'un travail colossal.
Absolument, oui, puisque Hercule avait eu le malheur d'hériter de 12 travaux phénoménaux à accomplir.
Il y a encore tant et tant d'histoires à nous raconter autour des prénoms, Sylvie Brunet. Merci d'être venue dans la puce pour en évoquer quelques-unes avec moi. Je rappelle que votre ouvrage « 300 expressions qui jouent avec nos prénoms » est réédité aux éditions de L'Opportun. À très bientôt, Sylvie Brunet.
À bientôt, merci.
Lucie, Sylvie, merci. On devrait reparler de prénoms dans quelques jours, puisque c'est devenu un sujet hautement politique. Carlo, on dit Charles, sans jouer les Cassandres en 10 secondes, comment imaginer l'avenir d'Haïti ?
Ah,
c'est 10 secondes qui est important dans la question. Hein.
Allez, j'espère qu'on va travailler ensemble en tant qu'Haïtiens pour faire de notre mieux et développer le pays. Voilà.
Bravo. Merci Carlo, Andy, Charles. Merci Olivier Coulon-Jablonka. Cap merci. Au monde se joue au théâtre de l'Échangeur à Bagnolet, terminus de ligne 3 jusqu'à la fin de la semaine. Puis vous partez en tournée avant de revenir dans la région parisienne au théâtre Jean Villard du 10 au 12. À demain.